应该是打高尔夫了。
On va les enfants, à bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Alors cette semaine, notre toile est secouée par la caméra nerveuse de Amé et Ekwe et leur film Les Derniers Parisiens. Et je suis en compagnie des yeux et de la voix d'Alice qui nous touchera également deux mots de 20th Century Woman. Bonjour à toi Alice.
Bonjour Rémi.
Et bien sûr, en fin d'émission, nous retrouverons Pierre qui nous parlera cette semaine de Last Week Tonight with John Oliver, petite entorse à sa chronique sur les séries, mais on n'en est pas si loin. Mais pour l'instant, nous nous plongeons donc dans Pigalle à la suite de Reda Kateb pour Les Derniers Parisiens. L'acteur y incarne Nas, trentenaire à lunettes noires et manteau de cuir, tout juste sorti de prison et travaillant en attendant de trouver mieux dans le bar de son grand frère Areski, homme calme ayant réussi à fuir les barres d'immeubles où ils sont nés pour se construire une vie tranquille dans Paris. Nas voit peu à peu dans ce bar une opportunité de se lancer, d'entreprendre quelque chose, et va essayer d'en faire une boîte à la mode, mais Pigalle est un monde qui change et peut-être qui s'éteint. Alors avant d'en dire plus sur ce film, Alice, quel est ton avis sur Ces Derniers Parisiens ?
Il m'a un peu énervé à certains moments par le côté très cru et macho, mais qui en fait est sans cesse temporisé par plein d'autres moments du film. J'ai beaucoup aimé la façon de filmer un peu près du trottoir, Pigalle de jour, et donc pas ce Pigalle du Moulin Rouge et des boîtes de nuit, même si c'est ce dont le film parle. Et bon, je l'ai trouvé peut-être un peu trop documentaire pour un film de fiction qui se perd un peu en une multitude d'intrigues.
D'accord. Bah alors personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce film et je suis d'accord avec ce que tu dis, avec cette caméra près du trottoir. C'est exactement ça. C'est même plus une caméra à l'épaule, c'est une caméra presque au pied d'une certaine façon et on marche avec elle. Et l'intelligence qui consiste à filmer Pigalle de jour, et ça permet de montrer véritablement les êtres humains qui y évoluent plutôt que juste une ambiance artificielle qui aurait été un petit peu une facilité en termes de film, de scénario, etc. Et j'aime vraiment beaucoup cette mise à jour, mise au goût du jour du film noir, de toute la tradition du film noir français, Melville, etc. sont pas très loin. On entend aussi beaucoup parler de Mean Streets dans la critique. Et il y a toute cette tradition qui est ingurgitée par les réalisateurs, dont il faut rappeler qu'ils sont un duo de rappeurs qui se sont mis au cinéma. Et pour donner ce film qui reprend un certain nombre de codes, bon alors codes esthétiques, on peut peut-être parler de l'esthétique tout de suite parce qu'elle est quand même assez frappante, avec alors certaines scènes de nuit quand même au début, et de toute façon toujours des contrastes assez poussés, des ombres, des lumières extrêmement contrastées, et puis cette musique qui est assez centrale dans le film, musique électro rythmée, sans être entraînante, parce qu'il y a toujours une espèce d'ombre dessus, une espèce de fatigue un petit peu, qui a quelque chose de gracieux, mais qui donne tout de suite le ton du film.
Oui, tout à fait, il y a un côté un peu... c'est une musique très rythmée, mais en même temps un peu fatiguée, et pas fatigante du tout, enfin sans jouer sur les mots, mais elle est très bien incorporée au film, mais elle a un côté très... à rebours aussi de ce qu'on pourrait attendre d'un film... réalisé par deux rappeurs, c'est-à-dire que c'est pas du tout du gros rap ou de la trap, c'est vraiment une musique électro d'ambiance et qui illustre très bien, oui, cette ambiance d'un Pigalle fatigué et très qui voit peut-être pas trop ce qu'il y a demain.
Oui, et justement, alors tu embrayes sur le propos social entre guillemets du film, et là aussi c'est un peu la même dynamique qu'à l'œuvre. On s'attendrait, connaissant le duo Draper, à quelque chose d'assez agressif socialement, parce qu'ils ont quand même des textes extrêmement engagés, extrêmement forts. Et là justement, c'est un constat un petit peu nostalgique et beaucoup plus nuancé que ce à quoi on pourrait s'attendre qu'il y a dans ce film. Alors ça dresse le tableau d'une forme de fatalité dans laquelle les personnages sont emportés. Ils sont de toute façon trop vieux pour réussir ce qu'ils essayent de faire. Le grand frère a 45-50 ans, le petit frère en a une bonne trentaine, et de toute façon leur vie, ou en tout cas la vie à laquelle ils se destinent, est derrière eux.
Moi j'ai été aussi frappée par le fait que finalement les amis de Nas, donc qui eux sont pas allés en prison et qui sont restés à Pigalle, ont l'air d'avoir plutôt réussi. Il y en a, même s'il y a une déchéance, il y en a un qui a réussi à tenir une boutique de vêtements de marque et de baskets, qui bien sûr est obligé de s'en défaire par manque d'argent, par manque de clientèle. Mais en même temps, c'est pas du tout quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans de petit trafic et qui vit au jour le jour. C'est des gens qui en même temps ont construit leur vie. Son frère aussi, il s'est fait un nom, il s'est fait respecter dans le quartier. Donc il y a aussi une forme de douceur, je trouve, dans le destin de ces personnages, même si on sent qu'il est très dur et très triste.
Mais la dépossession, justement, est peut-être d'autant plus cruelle qu'elle est douce. Je lisais cette phrase de l'Humanité qui s'amuse à écrire que le capital décapite la capitale à propos de ce film, et au-delà du jeu de mots, il y a vraiment, à travers tout le film, cette mécanique de l'argent qui rachète tout et uniformise tout ce quartier, supprime les têtes qui dépassent, mais aussi du coup les individus, quitte à verser dans quelque chose qui relève de l'arnaque, et c'est l'un des ressorts du film à la fin qu'on dévoilera peut-être pas ici. C'est l'argent aussi qui pourrit d'une certaine façon la relation entre les frères, parce qu'on ne saura jamais exactement si le grand frère n'a pas réussi à s'installer grâce au trafic du petit frère. Enfin, c'est quelque chose d'assez flou. Et finalement, c'est un tableau des rapports humains pervertis par l'argent et d'un petit quartier dépossédé de son existence au niveau du trottoir par l'irruption de l'argent et de toute la gentrification d'un centre-ville parisien que veulent montrer les réalisateurs.
Oui, et puis il y a une grande subtilité, je trouve, dans la question de l'argent, au sens où c'est en quelque sorte un argent propre, donc qui détruit tout ce quartier. C'est plus l'argent des magouilles, des trafics, etc., de la rue. C'est un argent qui vient de sponsors de Dubaï ou bien de grandes chaînes de fast-food nationales et internationales. Et c'est par là qu'arrive le mal, et en même temps, on n'a pas du tout une apologie du petit trafic et du vol qui est fait, très loin de là. Et c'est vraiment une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est à quel point il y a une sorte de vision de la gentrification comme phénomène généralisé qui arrive non seulement dans tous les quartiers de Paris, mais partout. Et en même temps, le côté... À Pigalle, ça prend la dimension de une cohabitation finalement entre des gens qui sont de plus en plus à la rue et des grandes enseignes qui ont pris la place et qui se sont mises autour du Moulin Rouge. Et j'ai trouvé ça même très très beau. Enfin, il le montre assez bien, toutes ces rues qui changent, où ces gens juste qui passent et qui se mélangent pas vraiment, ces flics qui sont sans cesse dans les rues. C'est vraiment très beau.
Oui, tout à fait. Et alors peut-être continuer, tu disais qu'il y a quand même quelques détails au milieu de ce tableau assez réussi qui énerve un petit peu, et on pourrait peut-être continuer là-dessus. Alors il y a aussi quelques trucs qui me gênent, enfin, j'ai l'impression qu'il y a surtout quelques effets de scénario dont on aurait pu se passer. Je m'interroge sur la place de Mélanie Laurent dans ce film, oui, où elle n'est pas d'une utilité fondamentale. D'un autre côté, c'est la seule touche féminine du film. Alors, est-ce que on essaye de nous dépeindre un monde qui effectivement est un monde d'hommes, ou est-ce que les réalisateurs n'ont pas réussi à trouver une place correcte à la femme dans ce tableau? C'est quelque chose que je vais peut-être pas me prononcer, mais en tout cas, je fais le constat que Mélanie Laurent n'est pas d'une utilité folle. Pareil, ces séquences où un SDF un peu fou apparaît au milieu du film, on ne sait pas exactement ce que ce fil rouge fait là, il y a quelques éléments comme ça qui gênent un peu, mais qui ne sont pas envahissants non plus.
Non, après Mélanie Laurent, moi je pencherais pour plutôt une peut-être une maladresse de la part des réalisateurs, enfin une un manque d'adresse en tout cas à faire intervenir une touche féminine justement, parce que le film commence sur une discussion extrêmement macho avec des blagues sexistes en boucle et on sent très bien que c'est pas du tout partagé par les réalisateurs, que la vision du film est pas du tout là.
Non, parce que les personnages qui tiennent ce discours se font d'ailleurs jeter du bar où ils sont. Oui.
Non, tout à fait. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas de réelle place faite aux femmes, à part donc Mélanie Laurent, mais qui est en plus un objet de discorde total et dont finalement, à chaque fois qu'on la voit apparaître à l'écran, est très agaçante, je trouve, en tout cas.
Oui, un petit peu, oui. Mais à côté de ça, les acteurs masculins, et entre autres, en particulier même le duo de frères, Reda Kateb et Slimane Dazi, sont vraiment extrêmement... Il y a quelque chose de très très beau dans la rugosité et la pudeur dont ils témoignent, à l'image de tout le film d'ailleurs, hein, qui est vraiment construit sans aucune surenchère, sans faire appel non plus à la violence comme moteur du film, ni comme moteur de leur jeu. Et c'est peut-être ça, finalement, qui est très réussi dans la démarche et qui se retrouve dans le jeu de ces acteurs, Reda Kateb, qu'on avait déjà pu remarquer en d'autres occasions.
Oui, et puis il y avait ce risque que moi je craignais avant d'aller voir ce film, qui était de voir ce qu'on pourrait voir à Envoyé spécial sur France 2, c'est-à-dire des groupes de jeunes en bas des HLM en train de juste se hurler des choses et on a l'impression que soit tout est surjoué, soit ça n'a pas à être montré, ou en tout cas ça n'a pas d'intérêt esthétique ou cinématographique. Alors que là, c'est complètement évité. Et d'ailleurs, moi je ne savais pas du tout, mais donc une grande partie des acteurs sont des amateurs.
Oui.
Et ils font pas du tout preuve d'amateurisme, mais en même temps, il y a exactement cette spontanéité dans les sortes de joutes verbales qui sont un peu leur seule occupation. Joyeuse et qui est vraiment très réussie.
Oui, tout à fait. Oui, mais finalement, tout rejoint une forme de justesse du portrait, tout simplement, et du message aussi, malgré les maladresses de réalisation qu'on peut aussi imputer au fait que c'est leur premier long et qu'ils sont pas du tout, ils ont pas du tout de formation de cinéaste. Mais malgré ça, donc, un film assez maîtrisé, il faut bien le dire, avec un message qui porte et une douce mélancolie qui n'est pas désagréable et qu'on vous encourage donc à aller voir, chers auditeurs. Il est en salle encore pour quelques temps à La Fourmi. Et pour continuer, Alice, tu voulais nous parler de 20th Century Woman de Mike Mills. Alors du coup, ça raconte quoi ce film ?
Alors ça raconte en 79 en Californie, une femme et son petit garçon, enfin petit garçon, son enfant, son fils de 15 ans. Et elle qui a donc eu cet enfant tardivement à 40 ans, qui se retrouve à 55 ans... à ne pas savoir comment élever son fils de 15 ans. Elle demande finalement à deux autres femmes, une de 17 ans, qui est la meilleure amie de son fils, qui est jouée par Elle Fanning, et une de plutôt trentenaire, donc Greta Gerwig, qu'on peut voir dans Frances Ha, par exemple, d'éduquer son fils à sa place et de l'aider à devenir un homme. Le point de vue change sans cesse entre... Donc ces trois femmes, ce garçon et un autre homme de 40 ans qui est incapable, lui, pour le coup, d'aider ce jeune garçon à devenir un homme. Donc c'est l'histoire à la fois d'une éducation à l'âge d'homme par des femmes, et c'est aussi l'histoire d'une inadéquation avec la société, avec l'époque. On a cette femme donc, de 55 ans qui est née en 1924, qui est sans cesse présentée comme une enfant de la Grande Dépression. Son fils, quand il apprend que donc, sa mère a demandé à deux autres femmes de l'élever, enfin de l'éduquer, explique ça en disant « Oui, mais de toute façon, pendant la crise, les enfants étaient élevés par tout le monde. Elle a été élevée par toute la rue et pas par ses parents. C'est ça qu'elle veut pour moi. Et qui se retrouve donc en 79 dans une Amérique où on a, je sais pas, un désenchantement ou en tout cas une volonté de remettre à plat beaucoup de choses. Et notamment, le film parle beaucoup du mouvement punk, aussi du contexte politique. On a un discours de Jimmy Carter qui est mis au milieu comme ça, et puis de féminisme, puisque l'éducation de Jamie, donc le garçon, passe en fait par la lecture de textes féministes très 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 forts pour son âge. Et moi, j'ai été vraiment très bien surprise par ce film, par la subtilité qu'il avait à parler non seulement donc des relations entre les générations, mais aussi à ce féminisme. C'est, je pense, le seul film où j'ai jamais vu une discussion subtile et intéressante sur l'orgasme féminin et les problèmes que ça pose d'en parler. Esthétiquement, j'ai été moins bien surprise. C'est un film très très pop, un peu mood board, qui a beaucoup d'effets pour nous montrer la torpeur californienne, les skateboards. On a des effets d'accélération quand on voit une voiture sur les routes. Mais il y a des très belles images. Le film commence sur une image de la mer qui est absolument fascinante et magnifique. Mais bon, en plus, le film empathie de ses effets parce qu'il lui donne une certaine longueur dont on se serait peut-être bien passé. Mais sinon, je vous conseille d'aller voir ce film. Agréable surprise pour ma part.
Merci beaucoup, Alice, donc pour 20th Century Woman de Mike Mills, qui est encore en salle en ce moment. Ted, suit up! Lana. 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 Lana! What? Danger zone. Say my name. Eisenberg. You're goddamn right. Cool. Cool, cool, cool. Boy, these pretzels are making me thirsty. While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle. Plata o plomo. Democracy is so overrated. Office. Winter is coming. Et bonjour Pierre.
Bonjour Rémi.
Alors, de quelle série tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, je vous parle d'une série un peu particulière, au sens où, en fait, ce n'est pas une série. Oh mon Dieu ! Que se passe-t-il ? Pourquoi tout change si soudainement ? Vous entends, je vous ai crié. Mais que nenni, mes amis, on se calme. On se calme. Mon objectif, c'est de vous faire découvrir une production constante. Disons que si Rémi, c'est votre dealer d'Exta ou de MDMA, moi, c'est de l'héroïne ou de la coke. Et cette semaine, je vous fournis une sacrée dose puisque je vais vous parler de Last Week Tonight with John Oliver. Une émission produite par HBO qui est en cours de diffusion et qui a déjà 3 saisons pleines derrière elle. Le rêve. 93 épisodes de 30 minutes de bonheur. Je me sens comme Tony Montana. Alors... Passons. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? Eh bien, c'est un talk show à l'américaine, c'est-à-dire que c'est une émission d'actualité, de journalisme d'investigation, mais surtout d'humour. Attention ! Je ne veux pas dire qu'on nage dans les émissions de Fox News. Non, là, c'est du cable TV avec HBO, c'est-à-dire qu'on a le droit à des gros mots à l'anglaise, des délires pas possibles et surtout des moyens assez phénoménaux qui donnent lieu à du vrai spectacle. Oui, 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 du vrai spectacle. Il suffit de tomber sur l'épisode où il répond au vice-président de la FIFA par une vidéo épique avec des flammes diffusée sur la télévision bahamienne. Ou tout simplement quand il compare les scandales lors des élections américaines à des raisins secs dans un cookie pour symboliser la déception. Il nous montre un cookie pour Clinton, puis quand vient le tour de Trump, c'est une véritable pluie de raisins secs qui tombe sur son bureau. Enfin bref, on est sur de la qualité HBO, top moumoute comme dirait l'autre. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Alors d'abord, qui est ce fameux John Oliver, présentateur de cette émission ? Eh bien, c'est un humoriste britannique ayant fait ses débuts en 2002 sur la scène anglaise avant d'émigrer en 2006 aux États-Unis pour se retrouver plongé dans le Daily Show with Jon Stewart, grâce auquel il se fait remarquer. On a pu par exemple l'entendre dans Rick et Morty, le voir dans Community, série géniale que Céline vous recommandera sûrement, aux côtés de Childish Gambino, dont Sailtrax a déjà parlé il y a 2 semaines. L'émission est à retrouver sur le site transistor.fr ainsi que la page Facebook Sailtrax. Du coup, John Oliver gagne en notoriété à tel point qu'en 2014, il lance son propre talk show composé d'un rapide rappel des titres présenté avec humour, puis d'une longue séquence d'investigation sur des sujets généralement lourds ou peu traités, par exemple le cas des droits de citoyenneté des résidents de Washington qui est administré par le Congrès lui-même, ou des différents territoires américains d'outre-mer. Bien sûr, entre ces grandes séquences, il y a quelques petites pauses composées d'archives télévisuelles à mourir de rire, des fois particulièrement délicieuses. Mais avant d'aller plus loin, Rémi, je me tourne vers toi. Une fois n'est pas coutume, je vais retourner le principe de ton émission vers toi. Alors, j'ai ouï dire que tu aimes assez l'émission de John Oliver.
Oui.
Et pourquoi ?
Parce que c'est juste extrêmement drôle et fait avec une intelligence appréciable à la télévision. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France. On répète à qui veut l'entendre que les Américains sont des bœufs, mais on a cette espèce d'oasis d'humour intelligent dans le paysage télévisuel. C'est extrêmement amusant, c'est extrêmement bien fait. Et puis comme tu dis, il y a vraiment à la fois des moyens techniques imposants qui sont mis en œuvre, et malgré tout un côté un petit peu fait à la main avec ses moyens qui est très très amusant. Et puis John Oliver est délicieux dans la façon dont il présente tout ça.
En effet, je suis bien d'accord avec toi, et c'est un concept, ce concept des talk shows, que franchement on aimerait bien retrouver en France. Je sais que les Belges en ont quelques-uns pour imiter le système américain, et les Américains ont réussi justement à trouver ce filon pour faire de l'actualité journalistique avec humour. Notamment, par exemple, on a le Colbert Report, mais aussi, voilà, John Oliver et tout.
À quand Cyril Hanouna et François-Olivier Gisbert en duo?
J'espère être mort avant de voir ça. Mais donc, exactement, pour revenir à cette émission, je la recommande vivement parce que c'est, mine de rien, du journalisme très intelligent.
Oui.
C'est vraiment bien fait. La plupart du temps, il nous montre même le travail qu'il y a eu en amont. Et il le dit lui-même, il passe des semaines entières à travailler un seul sujet pour produire quelque chose d'une quatorzaine de minutes. Donc c'est un travail assez phénoménal où on se rend compte qu'ils vont vraiment en profondeur dans les sujets, qu'ils font de la vraie investigation. Voire même, John Oliver fait des interviews. Par exemple, l'épisode de dimanche 5 mars, John Oliver a fait une interview en Inde avec le Dalai Lama lui-même pour étayer son propos sur l'impact du Dalai Lama sur la politique chinoise. Il y a aussi une fois où il est allé jusqu'en Russie pour faire une interview avec
Edward Snowden.
Exactement. Donc voilà, c'est un véritable travail journalistique. Donc même si on peut se dire ouais, c'est juste une émission d'humour avec un humoriste qui a fait des one-man shows dans sa jeunesse, oui et non. Parce que bien sûr, il réutilise les éléments de One Man Show, il y a énormément d'humour dans ce qu'il dit, notamment à chaque fois qu'il parle d'un pays, il décrit le pays d'une manière particulière et ça donne des trucs assez drôles, par exemple Nouvelle-Zélande, l'Australie de l'Australie. Et bien sûr, cet humour est utilisé pour mettre en avant certains aspects absurdes, certains aspects de langue de bois aussi, parce qu'il commente énormément la politique américaine. Il a beau être britannique, ça n'empêche qu'il se considère américain. Lorsqu'il parle des élections américaines, il dit « nous », il dit « notre président », etc. Donc on sent quand même qu'il a une certaine passion pour ce qui se passe dans ce pays. Et du coup, pourquoi je vous recommande cette émission ? Eh bien, tout d'abord parce que voilà, il y en a plein, c'est drôle, il y a du spectacle assez excellent, avec des chansons des fois, c'est très drôle, il sait tourner les choses en dérision, vraiment, il est très fort à ça. Mais aussi, mine de rien, ça permet d'en apprendre énormément sur la culture américaine et sur le système américain. Bien sûr, en tant que Français, on pourrait se dire « Ouais, bah ça va, ça nous permet juste de voir que les Américains, c'est tous des pourris, leur système est foutu, mais... » Mais ça manque en France, certes, mais ça n'empêche que des fois, de ce qu'on peut tirer de ce qu'il dit des États-Unis fonctionne pour la France, notamment au niveau du système de sécurité sociale, où on peut se poser des questions sur notre propre système. Et John Oliver n'hésite pas justement à parler de l'actualité brûlante d'autres pays ou simplement à faire des liens avec d'autres pays. Un truc est à déplorer, c'est que il parle pas beaucoup de la France, sauf pour les attentats du 13 novembre, où il a fait une petite séquence, ça dure même pas 2 minutes 30, à retrouver sur YouTube, qui est, je dois l'admettre, assez saisissante, surtout quand vous tombez dessus 2 jours après avoir appris que dans la ville où vous y étiez, à quelques stations de chez vous, il y a eu ce genre de choses. Après, autre point négatif de cette émission, quand même, il faut le reconnaître, c'est que John Oliver est très partial. Mais il l'admet, il le met en avant, pas totalement. Par exemple, lors de l'élection américaine, ça se sentait qu'il était particulièrement pro-Clinton. Mais en même temps, quand on voit ce qu'il y avait en face, un peu difficile de vouloir être un chroniqueur journalistique sans se dire « Mon Dieu, faut peut-être donner un petit coup de pouce au camp opposé du grand farfelu que nous avons donc maintenant comme président du Monde Libre ». Donc voilà, c'est une émission assez partiale, mais assumée, partiale pour les Américains, mais pour nous on pourrait dire que bah, c'est de gauche, donc je pense que ça dérangera pas grand monde à l'ENS ou de Transistor. Et donc, cet humour permet quand même de nous faire profiter avec délectation de l'actualité américaine. Je lui accorde non pas une poignée d'Emmy, l'équivalent des Oscars pour les séries, parce que Last Week Tonight en a déjà plusieurs. Mais plutôt, je lui accorde 25 unes sur 30 tabloïdes avec la mention « Sérieux, mais tu fais quoi tes dimanches soirs, putain ?»
Merci beaucoup, Pierre. Et alors, je dois dire que je ne suis pas à ce point fanatique pour m'y connecter tous les dimanches soirs, mais en effet, je récupère petit à petit mon retard sur ces trois longues saisons et c'est toujours amusant de piocher un sujet au hasard et de retrouver ce qu'il disait sur tel ou tel sujet. En tout cas, merci beaucoup pour avoir fait partager ce Last Week Tonight with John Oliver. Et je termine avec quelques petites idées de sortie pour cette semaine. Alors, je ne vous parle pas de Grave et The Lost City of Z qui sortent aujourd'hui et que vous pourrez retrouver au CNP Terreau. J'espère bien avoir l'occasion de vous en parler et pourquoi pas en direct aux Intercus. Mais pour l'instant, revenons sur quelques sorties peut-être un peu moins remarquées, mais non moins remarquables. Et je commence avec Certaines femmes de Kelly Richard, cinéaste majeur mais discrète dans le cinéma américain de ces dernières années, qui filme quatre portraits de femmes dans les immenses étendues balayées par le vent du Montana. Quatre histoires liées par une même solitude et qui pourraient sembler banales si elles n'étaient la peinture d'une même blessure intime, évoquée avec une intensité que seule permet ici l'épure. L'avocate poursuivie par son client, la mère de famille à cran, la palefrenière rencontrant une jeune juriste, sont autant de corps et de voix pour parler de la place de la femme aux États-Unis. Ce film qui a failli ne pas sortir en salle est manifestement d'une justesse encensée en tout cas par la critique et arrive enfin en salle à Lyon au cinéma Opéra. Je vous encourage à aller le voir et si vous voulez un petit peu plus d'informations dessus, il en sera question dans cette même émission la semaine prochaine. Je continue du côté des festivals. À partir d'aujourd'hui, au cinéma Le Zola à Villeurbanne, ont lieu les 33e reflets des cinémas ibériques et latino-américains. Festival qui nous montre la diversité de ces cinémas avec 47 films, dont 13 avant-premières et 19 inédits. N'hésitez pas à vous renseigner plus sur ce festival, donc sur son site lesreflets-cinema.com. Et je termine avec un événement qui lui fait tout à fait écho, la carte blanche au Festival des Trois Continents, organisé du 23 au 26 mars par les Cinémas Lumière qui accueillent ce festival nantais donc qui propose depuis 1979 des films de fiction et des documentaires d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Sont sélectionnés 10 films portugais, angolais et mozambicains cette année, dont de nombreux inédits, sur les liens historiques qui unissent le Portugal à ses anciennes colonies. Tournés de 1974 à 1985, ces 10 films questionnent la conscience nationale des cinéastes portugais, tandis qu'ils témoignent de l'avènement d'un rôle dévolu au cinéma en Angola et au Mozambique dans leur contexte révolutionnaire respectif, à la fois lieu de commémoration, de célébration et travail ethnographique. Le lien vers toutes les informations sur cette carte blanche donc est sur notre site, et je rappelle que ça aura lieu du 24 au 26 mars au cinéma Lumière. Voilà, D'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 51e numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Alice Bocara et Rémi Cerda, et pour les séries, Pierre Lemoel. Nous vous retrouvons la semaine prochaine ici même avec donc Certaines femmes de Kelly Richards. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos anciennes émissions et à commenter celle-ci sur la page de D'étoiles plein les yeux sur transistor.fr. Et bonne semaine à tous dans les salles obscures.